Chapitre 52 Man, Tessel, Pharès. Attaqué comme jusqu'alors il avait attaqué les autres, Peyrade, privé de Corentin, mais aidé par Contenson, n'en resta pas moins sous son costume de nabab. Encore que ses invisibles ennemis l'eussent découvert, il pensait assez sagement pouvoir saisir quelques lueurs, en demeurant sur le terrain même de la lutte. Contenson avait mis en campagne toutes ses connaissances à la piste de Lydie. Il espérait découvrir la maison dans laquelle elle était cachée. Mais de jour en jour, l'impossibilité, de plus en plus démontrée, de savoir la moindre chose, ajouta d'heure en heure au désespoir de Peyrade. Le vieil espion se vit entouré d'une garde de 12 ou 15 agents les plus habiles. On surveillait les alentours de la rue des Moineaux et de la rue Thébou, où il vivait en nabab, chez Madame de Valnoble. Pendant les 3 derniers jours du délai fatal accordé par Asie pour rétablir Lucien sur l'ancien pied à l'hôtel de Grandlieu, Contenson ne quitta pas le vétéran de l'ancienne lieutenance générale de police. Ainsi, la poésie de terreur que les stratagèmes des tribus ennemies en guerre répandent au sein des forêts de l'Amérique, et dont a tant profité Cooper, s'attachait aux plus petits détails de la vie parisienne. Les passants, les boutiques, les fiacres, une personne debout à une croisée, tout offrait aux hommes numéros, à qui la défense de la vie du vieux Peyrade était confiée, l'intérêt énorme que présente dans les romans de Cooper un tronc d'arbre, une habitation de castor, un rocher, la peau d'un bison, un canot immobile, un feuillage à fleur d'eau. « Si l'Espagnol est parti, vous n'avez rien à craindre, » disait Contenson à Peyrade, en lui faisant remarquer la profonde tranquillité dont il jouissait. « Et s'il n'est pas parti, » répondait Peyrade. « Il a emmené un de mes hommes derrière sa calèche, mais, à Blois, mon homme, forcé de descendre, n'a pu ni remonter ni rattraper la voiture. » 5 jours après le retour de Derville, un matin, Lucien reçut la visite de Rastignac. « Je suis, mon cher, au désespoir d'avoir à m'acquitter d'une négociation qu'on m'a confiée à cause de notre connaissance intime. Ton mariage est rompu sans que tu puisses jamais espérer de le renouer. Ne remets plus les pieds à l'hôtel de Grandlieu. Pour épouser Clotilde, il faut attendre la mort de son père. Il est devenu trop égoïste pour mourir de sitôt. Les vieux joueurs de whist tiennent longtemps sur leur bord de table. Clotilde va partir pour l'Italie avec Madeleine de Lénoncourt-Chaulieu. La pauvre fille t'aime tant, mon cher, qu'il a fallu la surveiller. Elle voulait venir te voir. Elle avait fait son petit projet d'évasion. C'est une consolation dans ton malheur. » Lucien ne répondait pas. Il regardait Rastignac. « Après tout, est-ce un malheur ?» lui dit son compatriote. « Tu trouveras bien facilement une autre fille aussi noble et plus belle que Clotilde. Madame de Sérisy te mariera par vengeance. Elle ne peut pas souffrir les Grandlieu, qui n'ont jamais voulu la recevoir. Elle a une nièce, la petite Clémence du Rouvre. Mon cher, depuis notre dernier souper, je ne suis pas bien avec Madame de Sérisy. Elle m'a vue dans la loge d'Esther. Elle m'a fait une scène et je l'ai laissée faire. Une femme de plus de 40 ans ne se brouille pas pour longtemps avec un jeune homme aussi beau que toi, » dit Rastignac. « Je connais un peu ces couchers de soleil. Ça dure 10 minutes à l'horizon et 10 ans dans le cœur d'une femme. Voici 8 jours que j'attends une lettre d'elle. Vas-y. Maintenant, il le faudra bien. Viens-tu du moins chez la Valnoble? Son nabab rend à Nucingen le souper qu'il en a reçu. J'en suis et j'irai, » dit Lucien d'un air grave. Le lendemain de la confirmation de son malheur, dont Carlos fut instruit aussitôt, Lucien vint avec Rastignac et Nucingen chez le faux nabab. À minuit, l'ancienne salle à manger d'Esther réunissait presque tous les personnages de ce drame, dont l'intérêt, caché sous le lit même de ces existences torrentielles, n'était connu que d'Esther, de Lucien, de Peyrade du mulâtre Contenson et de Paccard, qui vint servir sa maîtresse. Asie avait été priée par Madame du Val-Noble, à l'insu de Peyrade et de Contenson, de venir aider sa cuisinière. En se mettant à table, Peyrade, qui donna 500 francs à Madame du Val-Noble pour bien faire les choses, trouva dans sa serviette un petit papier, sur lequel il lut ces mots, écrits au crayon. « Les 10 jours expirent au moment où vous vous mettez à table. » Peyrade passa le papier à Contenson, qui se trouvait derrière lui, en lui disant en anglais « Est-ce toi qui as fourré là mon nom ?» Contenson lut à la lueur des bougies ce « Manet Tessel Fares » et mit le papier dans sa poche. Mais il savait combien il est difficile de vérifier une écriture au crayon, et surtout une phrase tracée en lettres majuscules, c'est-à-dire avec des lignes pour ainsi dire mathématiques, puisque les lettres capitales se composent uniquement de courbes et de droites, dans lesquelles il est impossible de reconnaître les habitudes de la main, comme dans l'écriture dite cursive. Ce souper fut sans aucune gaieté. Peyrade était en proie à une préoccupation visible. Des jeunes viveurs qui savaient égayer un souper, il ne se trouvait là que Lucien et Rastignac. Lucien était fort triste et songeur. Rastignac, qui venait de perdre, avant souper, 2000 francs, buvait et mangeait avec l'idée de se rattraper après le souper. Les trois femmes, frappées de ce froid, se regardèrent. L'ennui dépouilla les mets de leur saveur. Il en est des soupers comme des pièces de théâtre et des livres, ils ont leur hasard. À la fin du souper, on servit des glaces dites plombières. Tout le monde sait que ces sortes de glaces contiennent de petits fruits confits, très délicats, placés à la surface de la glace qui se sert dans un petit verre, sans y affecter la forme pyramidale. Ces glaces avaient été commandées par Madame du Val-Noble chez Tortoni, dont le célèbre établissement se trouve au coin de la rue Thébou et du boulevard. La cuisinière fit appeler le mulâtre pour payer la note du glacier. Contenson, à qui l'exigence du garçon ne parut pas naturelle, descendit et l'aplatit par ce mot « Vous n'êtes donc pas de chez Tortoni ?» et le remonta sur le champ. Mais Paccard avait déjà profité de cette absence pour distribuer les glaces aux convives. À peine le mulâtre atteignait-il la porte de l'appartement qu'un des agents qui surveillait la rue des Moineaux cria dans l'escalier « Numéro 27 !»« Qu'y a-t-il ? » répondit Contenson en redescendant avec rapidité jusqu'au bas de la rampe. « Dites au papa que sa fille est rentrée. Et dans quel état, bon Dieu, qu'il vienne, elle se meurt !» Au moment où Contenson rentra dans la salle à manger, le vieux Peyrade, qui d'ailleurs avait notablement bu, gobait la petite cerise de sa plombière. Le nabab remplit son verre d'un vin, dit de Constance, et le vida. Quelque troublé que fût Contenson par la nouvelle qu'il allait apprendre à Peyrade, il fut, en rentrant, frappé de la profonde attention avec laquelle Paccard regardait le nabab. Les deux yeux du valet de Madame de Champy ressemblaient à deux flammes fixes. Cette observation, malgré son importance, ne devait cependant pas retarder le mulâtre, et il se pencha vers son maître au moment où Peyrade replaçait son verre vide sur la table. « Lydie est à la maison, » dit Contenson, « et dans un bien triste état. » Peyrade lâcha le plus français de tous les jurons français, avec un accent méridional si prononcé que le plus profond étonnement parut sur la figure de tous les convives. En s'apercevant de sa faute, Peyrade avoua son déguisement, en disant à Contenson, en bon français, « Trouve un fiacre, je fiche le camp. » Tout le monde se leva de table. « Qui donc êtes-vous ? » s'écria Lucien. « Oui, » dit le baron. Bixiou m'avait soutenu que vous saviez faire l'anglais mieux que lui, et je ne voulais pas le croire, dit Rastignac. C'est quelque banqueroutier découvert, dit Du Tillet à haute voix. Je m'en doutais. Quel singulier pays que Paris, dit Madame du Val-Noble. Après avoir fait faillite dans son quartier, un marchand y reparaît en nabab ou en dandy aux Champs-Élysées, impunément. Oh, j'ai du malheur, la faillite est mon insecte. On dit que toutes les fleurs ont le leur, dit tranquillement Esther. Le mien ressemble à celui de Cléopâtre, un aspic. Ce que je suis, dit Peyrade à la porte. Ah, vous le saurez, car si je meurs, je sortirai de mon tombeau pour vous venir tirer par les pieds pendant toutes les nuits. En disant ces derniers mots, il regardait Esther et Lucien. Puis il profita de l'étonnement général pour disparaître avec une excessive agilité, car il voulut courir chez lui sans attendre le fiacre. Dans la rue, Asie, enveloppée d'une coiffe noire, comme en portaient alors les femmes pour sortir du bal, arrêta l'espion par le bras, au seuil de la porte cochère. « Envoie chercher les sacrements, papa Peyrade, lui dit-elle de cette voix qui déjà lui avait prophétisé le malheur. Une voiture était là. Asie y monta. La voiture disparut comme emportée par le vent. Il y avait 5 voitures. Les hommes de Peyrade ne purent rien savoir.